Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Le Marcel Dassault, le Marcel Bloch Dassault, ouagan, quel parcours déjà 300 mètres.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, Serge Dassault, président directeur général du groupe qui porte son nom, propriétaire du Figaro, est sénateur depuis 2004 et il a été maire de Corbeil-Essonne de 1995 à 2009, date à laquelle il a laissé la place à un dauphin, Jean-Pierre Bechter, qui vient d'être réélu dimanche dernier avec 57% des voix. En novembre 2013, deux magistrats du pôle financier de Paris ont demandé au Sénat que soit levée l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Celle-ci a d'abord été refusée au scrutin secret par le bureau du Sénat, puis acceptée à la demande de l'intéressé lui-même. Il a été mis en garde à vue à propos d'une présomption d'achat de vote dans sa commune. Quelle que soit l'issue de cette procédure, l'attention publique a été attirée du coup, sous cette lumière, vers une personnalité majeure qui a inscrit son action à la frontière de l'industrie, de la presse et de la politique. Et on éprouve du coup le goût de braquer l'attention, pour comparaison, sur la grande figure de son père, Marcel Dassault, inventeur et homme d'affaires devenu légendaire, qui dessina lui aussi son chemin à la rencontre de ces trois mondes. Il va s'agir, en suivant cet itinéraire sans pareil, de braquer l'attention sur les relations spécifiques de Marcel Dassault, longtemps avant son fils, avec la politique, dans notre démocratie, qu'il s'agisse de sa place au Parlement, du poids de ses journaux ou de son influence directe sur les décisions concernant son industrie, une industrie dont la place s'est affirmée de longue date comme majeure dans l'économie du pays et pour la défense nationale. De Marcel Dassault, Pierre Assouline s'est fait naguère le biographe sagace. Il est devant moi.
J'ai toujours aimé les choses un peu miraculeuses, l'électricité qui était la fée électricité, et les contes, les fables, et je crois qu'une chose peut conduire à l'autre. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Prenez l'histoire de Perrette et le Potolet. Bon, dans l'histoire de Perrette et le Potolet, la jeune fermière a son potolet, chacun sait ça, elle se dit... Je vais vendre mon lait, je vais acheter des œufs, je vais les faire couver. Elle se dit ensuite, je vais acheter un cochon, je vais l'engraisser, et puis après j'aurai une vache et son veau. Et puis comme elle est un peu jeune et joyeuse, elle fait un faux pas, et puis le pot au lait est par terre. La morale qu'on en tire, en général, c'est qu'il ne faut pas faire de château en Espagne. Mais à côté de cela, il y a autre chose de beaucoup plus profond, c'est qu'au fond, cette Perrette raisonnait extrêmement bien. Il y a beaucoup de gens qui veulent arriver tout de suite au but. Et qui, pour arriver tout de suite au but, font des dettes, manquent d'expérience. Elle, au contraire, elle procède d'une façon très logique. Elle part de son pot au lait. Vient après, elle va acheter des œufs, elle va les faire couver. Enfin, elle n'a pas tout de suite sa vache et son veau. Au fond, elle raisonne d'une façon...
logique.
Très logique. Eh bien... moi, je dois dire que j'ai fait un peu la même chose. J'ai commencé par faire une hélice. Et puis, quand j'ai eu fait des hélices, j'ai fait un avion. Et puis, quand j'ai eu fait des avions, comme je n'avais pas d'usine, Ils étaient construits sous licence dans d'autres sociétés, et puis après, j'ai eu des usines. J'ai fini par avoir ma vache et mon veau. Je dois dire, quand je suis arrivé à Buchenwald, le poteau au lait a un peu vacillé. Mais comme j'en suis revenu, eh ben, je trouve ça aussi un peu miraculeux.
Père Assouline, bonjour.
Bonjour.
Vous avez bien sûr reconnu la voix de Marcel Dassault lui-même, tel qu'il était interviewé par Jacques Chancel dans Radioscopie, sur France Inter, le 6 janvier 1971. Alors la différence entre Perrette et Marcel Dassault, si on suit le parallèle, c'est que Marcel Dassault, lui, n'a pas manqué de veau, de vache, de cochon et de couvée. Mais dans le même temps, on voit tout droit, immédiatement, ce qui est un des traits de son personnage, avec la passion, avec le souci de chaque détail, c'est une idée de la politique des petits pas.
Oui, c'est la prudence, en quelque sorte, qui est une vertu qu'il a élevée pratiquement au rang d'un des beaux-arts, parce que quand on l'écoute, on a l'impression que la prudence, c'est ce qui peut mener le monde, finalement. En tout cas, c'est ce qui a mené son monde. Moi, je suis assez fasciné par Marcel Dassault, même longtemps après, d'avoir consacré une biographie dans la mesure...
Il y a 30 ans déjà,
il y a 30 ans. Oui. Le personnage demeure toujours aussi déconcertant. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas aujourd'hui un homme politique et un industriel de cette envergure oser s'exprimer avec tant de candeur, de naïveté, qui n'est jamais feinte, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Ce n'est pas de la fausse naïveté.
Un autre le ferait aujourd'hui, on n'en croirait pas un mot, quel qu'il fût. Lui, on le croit volontiers parce que... Il a toujours été comme ça, et ceux qui l'ont approché peuvent en témoigner. Et ça reste déconcertant, parce que les choses glissent sur lui, même les choses les plus graves. Vous avez vu avec quelle légèreté il a évoqué Buchenwald, alors qu'il en a souffert lui aussi. Mais il s'en est sorti. C'est une manière de mettre à distance les malheurs du monde, et notamment les malheurs qui peuvent le toucher.
Et peut-être de mettre à distance aussi les critiques. Vous avez choisi comme épigraphe à votre biographie de Monsieur Dassault, Pierre Assouline, vous avez choisi cette formule d'Alexander Pope, le grand poète britannique du début du XVIIIe siècle. « Ceux qui méritent le plus d'être loués supportent le mieux d'être critiqués. »
Je ne suis pas sûr que dans son cas, il supportait tellement d'être critiqué, mais je crois qu'il s'en fichait un peu.
Parce que alors il supportait.
Oui, il en a eu beaucoup, des critiques. Il avait cette capacité de passer au-delà, et encore une fois, de mettre un certain nombre de kilomètres entre lui et les fâcheux. Et ce qui pouvait le fâcher, de manière générale. Je crois que ça, c'est une très, très grande qualité.
Il a été injurié, dénoncé, pas oui. seulement sous Vichy, comme juif.
Oui.
Mais il a terminé sa vie. Il a vécu de 1892 à 1986. Il est mort en 86. Il a terminé sa vie entouré d'une sorte d'admiration étonnée et attendrie de la part des Français.
Je dirais même plus de l'indulgence. Parce que, évidemment, il y a une bonne partie des Français qui ne connaissaient pas exactement l'envergure de ses affaires, le comment et le pourquoi, et qui avaient juste de la sympathie pour le bonhomme. C'était Tonton Marcel. Hein. Rappelez-vous la bande dessinée qu'on voyait assez souvent de Régis Franck, qui s'appelait Tonton Marcel et qui le tournait en dérision, mais avec beaucoup d'affection.
Il y a eu aussi Hergé, auquel vous êtes si attaché, auquel vous avez consacré vous-même une biographie, Pierre Assouline, qui le dépeint sous les traits de Caraïdas dans Vol 714 pour Sydney.
Et on le reconnaît bien parce qu'il a son chapeau, ses lunettes, son par-dessus et surtout son cache-col. Et donc c'est vraiment lui, il n'y a pas de doute.
Il avait éternellement froid.
Oui, mais moi je pense à l'indulgence des gens, parce qu'un certain nombre de gens, y compris parmi les journalistes, et je ne parle même pas seulement des gens au plus haut de l'État, savaient parfaitement le système Dassault. Ils conservaient quand même une indulgence pour lui. Je crois qu'ils n'auraient pas eu cette indulgence pour, par exemple, un Sylvain Floira, qui était son ami, qui était un très grand industriel aussi.
Les médias, notamment.
Des médias européens et autres. Lui ou d'autres industriels n'auraient pas bénéficié de cette grâce que Dassault a eue auprès des Français et des pouvoirs publics.
Et d'ailleurs, il est peut-être intéressant d'observer que cette grâce n'entoure pas son fils Serge Dassault. Et se demander pourquoi une telle différence.
Alors, je crois que ça tient d'abord à la personnalité. Ils n'ont pas exactement la même personnalité. Quand Marcel Dassault disait, moi, ce que j'appellerais une énormité, ça passait avec le sourire. Quand son fils dit la même chose, on le traite d'imbécile. Il y a une différence de statut qui est due à la fois à la personnalité et puis aussi, en fait, quand même, il ne faut pas oublier que l'un est un fondateur, un créateur, un pionnier, l'autre est un héritier. Même si on sait que certains héritiers sont parfaitement capables de transformer et de transcender même un héritage, et Serge Dassault n'a pas du tout à rougir de l'héritage qu'il a reçu et de ce qu'il en a fait. Parce qu'il a su faire perdurer beaucoup de choses, et notamment un système.
Tard, d'ailleurs, tard dans une vie d'homme, puisque.
C'est pas fini. Hein.
Il a eu le pouvoir tard.
Il a eu le pouvoir tard parce que Marcel est resté là très tard, parce qu'il était quasi centenaire. Mais il déjà, Serge Dassault ans. Avait le pied à l'étrier depuis longtemps. Et il a mis le pied à l'étrier à ses propres enfants, donc les petits-enfants de Marcel Dassault.
La différence, c'est une énorme différence. On le voit dans un certain nombre de romans. Je pense au Baden-Brooks de Thomas Mann, entre celui qui est le créateur, le fondateur, on pourrait voir ça aussi avec les Rockefeller, avec beaucoup d'autres, et puis les descendants qui ont toujours une situation assez différente à la fois par rapport à eux-mêmes et par rapport aux autres. Parce que Marcel Dassault, il faudrait tout de même d'abord que nous rappelions comment il a émergé, comment il a réussi à petits pas à construire, et en même temps avec une passion, une compétence générale obsédée par les détails, comment il a construit sa fortune.
Ça commence pendant la Grande Guerre, mais il faut quand même rappeler d'où il vient. En fait, c'est un garçon brillant qui vient d'un milieu de la bonne bourgeoisie israélite parisienne, d'origine alsacienne. Il est fils de médecin. Ils habitent rue d'Aumale, boulevard Sébastopol. Donc, c'est un milieu. De ce milieu, il ne va pas sortir puisqu'il va épouser Hirsch Minkes, qui vient du même milieu que lui, qui est la fille d'un de ses amis. Ce qui est intéressant à savoir, c'est quand même l'origine de Dassault. Donc, on l'a dit, hein, du côté, il faut quand même rappeler qu'il s'appelle Bloch et pas Dassault à ce moment-là. Parce que appeler Dassault Marcel en 1913 ou 14, c'est déjà commettre un anachronisme. Alors, on l'appellera Marcel Bloch. Moi, en tout cas, je m'y suis tenu dans mon livre.
Bien sûr.
Et à ce moment-là, Marcel Bloch donc, vient de ce milieu. Mais il vient aussi, par sa mère, d'un milieu séfarade, Al-Latini. Al-Latini, c'est une très grande famille de Salonique. C'est les grands moulins de Salonique. Ce sont des gens très riches, très influents, qui ont leur place, même dans l'Empire ottoman. Ils sont les cousins des Camondo. Donc l'enfant, le jeune, l'adolescent Marcel Bloch, passe jeudi après-midi à goûter chez ses cousins Camondo rue de Monceau. Et très tôt, très vite, il fait preuve d'une agilité extraordinaire, une belle intelligence. Et c'est lui qui décide de faire cette école qui s'appelle aujourd'hui Super-Héros, mais qui à l'époque était embryonnaire.
Forcément.
Vraiment embryonnaire.
Hein. Avant 14.
Oui, forcément. Et qui est donc l'école d'aéronautique. C'est là qu'il apprend déjà à dessiner. Très important. Parce que vous avez les industriels de génie qui créent des grandes choses, mais qui n'ont pas la technique de départ. Ils la confient, ils savent la confier à qui il faut. Lui, il a déjà la technique. Et tous les gens que j'ai rencontrés au cours de mon enquête m'ont toujours dit le fait qu'il était lui-même un ingénieur et pas n'importe lequel, et un très bon dessinateur, fait que jusqu'à la fin de sa vie, quand il donnait son avis dans les bureaux d'études, bien qu'il ait été totalement dépassé par les inventions et la technologie, eh bien les ingénieurs l'écoutaient. Parce qu'il était l'un des leurs et qu'il savait parfaitement de quoi il en retournait, même s'il n'était pas tout à fait au fait des inventions les plus récentes. Ça compte beaucoup.
Il dessine les débuts de son histoire personnelle à partir de l'industrie du bois, puisqu'il invente avec un de ses amis, Pothèse, un autre grand nom à venir de l'industrie aéronautique entre les deux guerres, il invente une hélice en bois dont on nous dit qu'elle est particulièrement performante. Cela illustre tout à fait ce que vous venez de dire.
Le bois en question, il vient du Faubourg Saint-Antoine. Or, le Faubourg Saint-Antoine, c'est là où son beau-frère fabrique des meubles.
En noyer.
En noyer. Donc, je veux dire que tout ça se tient, ça va ensemble. Il y a une sorte d'improvisation. On a l'impression d'avoir affaire à des jeunes face à une start-up. Sauf que cette start-up, c'est du bois de récupération. C'est une hélice qu'on dessine sur un coin de table avec un copain connu à la fac. Et c'est le même esprit. Simplement, il n'y a pas encore la technologie. Mais le côté pionnier y est de la même manière. Donc moi, je retrouve dans les jeunes qui font des start-up aujourd'hui pour créer des applications qui vont se vendre quelques milliards un peu plus tard, je retrouve le même esprit que celui qui animait Marcel Bloch et Henri Pothèse à l'époque, à la sortie de l'école d'aéronautique, et alors qu'il traînait dans les fabriques de bois du Faubourg Saint-Antoine pour trouver de quoi fabriquer une hélice.
Alors l'hélice, ensuite, puisqu'on fait l'hélice, on a envie de faire le tout.
Oui, alors l'hélice, alors à son succès, il y a la guerre de 14, et puis ensuite, évidemment, ils veulent aller plus loin et commencer à créer leurs propres avions. Mais là, on part dans une aventure qui déjà va nous mettre en contact avec ce qui va être le grand secret, pour moi, de la réussite de Marcel Dassault, à savoir associer en permanence l'État à ses projets.
Alors c'est le thème principal évidemment de cette conversation, les Dassault, père et fils, c'est dans leur relation avec l'État en démocratie, dans l'entre-deux-guerres. Il y a un moment où il revient au meuble parce que un des avions qu'il avait mis au point n'est pas commandé, ou pratiquement pas, puisque la paix arrive. Il va dans les meubles, il s'ennuie beaucoup, et puis dans les années 30, alors on le voit émerger avec un éclat spécifique, toujours pas à pas et toujours avec ce double talent que vous évoquez d'ingénieur et d'entrepreneur.
Avec un troisième talent, déjà à l'époque, c'est celui de savoir s'entourer. C'est quelqu'un qui sait parfaitement choisir les hommes qui vont travailler avec lui, qui sont des hommes de confiance, parfois des hommes proches intellectuellement ou des gens de sa famille ou de son milieu, disons, mais surtout d'excellents techniciens à qui il sait parfaitement déléguer. Et ça, je crois que c'est un génie. C'est pas du tout l'homme qui veut tout faire, tout surveiller, tout superviser et ne rien déléguer. Au contraire, il fait confiance. Évidemment, si sa confiance est trahie, on en subit les conséquences tout de suite.
Ça lui arrivait très rarement, dit-il un jour dans une interview.
Oui, très rarement. C'est-à-dire que...
Il prenait ses collaborateurs à la sortie de l'école. Il voulait les former lui-même.
Il les formait lui-même et surtout, il les jugeait d'instinct. Il ne faut pas oublier quand même que cet homme, qui était un bon technicien, se remettait très souvent davantage à son intuition et à son instinct, beaucoup plus qu'à des calculs ou des études de marché, etc.
Au point où nous sommes arrivés de la conversation, Pierre Assouline, il faut que nous entendions le bruit d'un avion. Alors c'est un peu ultérieur, c'est en 1948, c'est l'essor de l'avion à réaction Ouragan. Mais Marcel Dassault est là, le cœur battant, et il regarde ce produit de son imagination, de son talent et de ses équipes. Et on est le 28 février 1948.
Le Marcel Dassault, le Marcel Blob Dassault, Ouragan, vient de parcourir déjà 300 mètres. 300 mètres, 400 mètres, au bout de 400 mètres, le Marcel Blob Dassault, Ouragan, vient de décoller pour la première fois. Magnifiquement, il a les volets sortis et il monte très allègrement vers le ciel. Il est déjà à l'altitude de 500 mètres, son train vient de rentrer et il s'en est allé dans l'espace.
Le Marcel Bloch Dassault Ouragan fait un dernier tour de piste. Le voici à quelques centaines de mètres de nous, à une vitesse d'environ 180-200 km/h, qui prend son terrain. Le colonel Rozanov vient de poser en 350 mètres environ, et d'une façon magistrale, le Marcel Bloch Dassault Ouragan. Le premier vol d'essai de cet avion français est terminé.
Beaucoup de vols d'essai dans l'histoire de Marcel Dassault, mais restons encore un instant, Pierre Assouline, dans ces années 30, puisque c'est le moment où il prend vraiment son essor, et le moment aussi d'ailleurs du côté de l'État, où apparaît un ministère de l'air.
C'est important. C'est important parce que c'est avec lui que tout va se faire. Ça me rappelle une remarque que faisait justement Marcel Dassault et l'un de ses principaux amis, qui était à l'époque au ministère de l'Air, qui s'appelait Fernand Edraer, et qui était ingénieur, et qui m'avait dit, ce monsieur il avait 95 ans quand je l'ai rencontré, hein, il y a 30 ans, et il m'avait dit, la différence entre la France et l'Allemagne, c'est que la France a connu 7 ministres de l'Air, entre la création du ministère et 1940. Dans le même temps, l'Allemagne a eu Göring, entre 1933 et 1940. Un seul ministre de l'air. Et donc c'est une grande différence, c'est-à-dire qu'il y a une politique de l'air qui en France a été assez fugitive, assez chaotique, assez au fur et à mesure des changements de ministres, alors qu'en Allemagne, c'était tout droit. Eh bien, c'était un reproche que Marcel Bloch, à l'époque, adressait au gouvernement, quel qu'il soit. Il leur disait, vous avez une politique, mais vous n'arrivez pas à vous y tenir, notamment pour la fabrication et l'industrie aéronautique. Le ministre de l'Air, en fait, le boulevard Victor, comme on l'appelait, c'est l'endroit où Marcel Bloch va passer le plus de temps.
Mais il y a aussi un grand fonctionnaire durable, lui, c'est Kako.
Oui, Kako, qui est une grande figure, très très grande figure de l'histoire de l'industrie aéronautique, qui est un homme auquel Marcel Bloch ne va jamais cesser de rendre hommage. pour son génie, parce que c'était un grand ingénieur, mais aussi pour sa manière de diriger les gens.
Ce qui est intéressant peut-être à voir, c'est que dès ce moment-là, il y a la première nationalisation.
Alors ça, c'est
quoi
ça,
parce qu'il y en a eu deux, encore en 1980, et là, la manière dont se comporte Marcel Bloch est intéressante par comparaison aussi avec aujourd'hui sur les relations entre Dassault, entre Serge Dassault et les pouvoirs publics.
Ce qui était intéressant...
De gauche aujourd'hui encore.
On est en 1936. Hein. Et en 1936, la nouvelle de la nationalisation d'industrie aéronautique annoncée par Pierre Cotte,
ministre de l'air,
est généralement, évidemment, mal prise par tout le monde.
Mais par tout le monde de ce côté-là.
De ce côté-là, bien sûr, du côté industriel. Mais Marcel Bloch est un des rares à ne pas réagir négativement. Parce qu'il y a justement ce tempérament extraordinairement optimiste et porté vers l'avant. Il se dit, c'est inéluctable, on n'a pas le choix. Alors comment s'en sortir le mieux possible? Et comment faire en sorte que nous, comme privés, et que eux, comme État, s'en sortent le mieux possible? Et c'est là que le système Dassault va se mettre en place et perdurer pendant très très longtemps. Du côté des industriels, vous avez ceux qui refusent l'indemnité ou l'indemnisation proposée par le gouvernement et ceux qui l'acceptent en traînant les pieds. Finalement, beaucoup l'acceptent parce qu'il va y avoir une dévaluation qui est annoncée, et autant accepter avant qu'après. Marcel Bloch accepte, comme Henri Pottès d'ailleurs, son ami, comme Farman, comme d'autres, de Voitine et les autres, il accepte son chèque, lui, de 17 millions, ce qui n'est pas rien. Simplement, au lieu de garder ce chèque et de dire « maintenant je vais passer à autre chose tout seul », il a l'intelligence, avec ce chèque, d'abord d'accepter la proposition de Pierre Cotte d'être nommé administrateur de sa propre société, de ce qui va s'appeler désormais Société Nationale du Sud-Ouest.
Donc il dépasse l'amertume et voilà juste cela.
Voilà, 6 sociétés nationales sont créées par Pierre Cotte, très remarquablement, et on demande à qui? On demande aux gens compétents, donc très souvent aux anciens patrons de devenir administrateurs. Et Bloch accepte tout de suite.
Et en plus, il fait des sociétés qui sont des sociétés...
Et son coup de génie, c'est à côté de ça, de créer ce qu'on appelle des bureaux d'études privés. Ces bureaux d'études lui appartiennent, et ce sont eux qui vont dessiner les avions, les concevoir pour les sociétés.
Sous-traitant.
Et troisième coup de génie, c'est de considérer que son premier client, le client prioritaire et absolu, c'est l'État. À partir de ce système-là, lui, administrateur d'une société, ayant créé des bureaux d'études privés dont il est le seul propriétaire et considérant l'État comme son client, eh bien, ce triptyque se met en place. Et en 2014, il est encore en fonction, malgré tout ce qui s'est passé, d'une certaine manière.
Le rapprochement est intéressant avec 1980, puisque Marcel Dassault a eu une seconde fois...
Et il a fait la même chose.
...à affronter, exactement, et ça s'est finalement très bien passé. C'est l'époque où il dit que Pierre Mauroy, Premier ministre, est très gentil.
Et ben oui, mais le trouvait très gentil. Il a refait la même chose. Rappelez-vous qu'au même moment, l'amertume d'un Guy de Rothschild publiant à la une du Monde...
Je quitte la France.
Paria sous Vichy et paria sous Mitterrand, je quitte la France. Ça avait fait énormément de bruit parce qu'on le nationalisait. Eh bien, Marcel Dassault l'a pas pris du tout de la même manière. Toujours ce tempérament porté vers l'avenir et le futur. Il s'est fait nationaliser parce qu'il n'avait pas le choix, mais il a réussi à faire de cette seconde nationalisation à nouveau une très bonne affaire, puisque... Le système perdure et que l'État est toujours son premier client. Quand on voit l'actualité du Rafale, par exemple, de l'avion Rafale, on comprend bien que les choses n'ont pas tellement changé.
Sauf que la différence est que le Mirage de Marcel Dassault s'est beaucoup vendu à l'étranger.
Ah oui,
et que, comme nous savons tristement, le Rafale, pour l'instant, n'a
pour
eu
l'instant.
Comme client que l'armée française.
Oui. Et j'oubliais un dernier mot à propos de son coup de génie, à côté des bureaux d'études, avoir mis en place un système qui lui permette... lui, Marcel Bloch, de toucher une redevance pour chaque prototype. Et ça, c'est remarquable.
Quelques mots, Pierre Assouline, sur la grande épreuve personnelle de la vie de Marcel Dassault, c'est-à-dire sa déportation au camp de Buchenwald, où tout aurait pu conduire à penser qu'il mourrait avec sa frêle constitution, mais à quoi il échappe? Grâce notamment, et c'est un élément... majeur de sa vie, parce que ça démontre son pragmatisme et ensuite sa fidélité, il est sauvé par les communistes.
Vous avez raison de dire, Jean-Noël Jeannet, c'est la grande épreuve. Pour nous, c'est la grande épreuve. Mais quand on l'écoute en parler, tout ça, on n'a pas l'impression que ça a été une plus grande épreuve que d'être nationalisé ou autre chose. Il a une capacité à traverser le siècle et les épreuves du siècle et les siennes propres avec, je ne dirais pas une légèreté, mais une maîtrise et un optimisme qui sont là aussi déconcertants. D'abord, il y a eu, avant cette épreuve-là, il y a eu l'épreuve d'être insulté dans la presse à la fin des années 30, la presse d'extrême droite qui lui reprochait les cercueils volants, c'est-à-dire des avions qui avaient tendance à tomber. Alors, il n'était pas le seul, mais lui, on en a fait une cible assez facile. Et c'est vrai que comme ces avions avaient plus de succès que les autres, ils étaient pris pour cible plus facilement par cette presse qui ne le lâchait jamais.
Et ça, c'est évidemment exaspéré à l'époque de Vichy, où il a été
avec Vichy, ça s'est exaspéré avec la presse vigiste et d'extrême droite. Ça s'est exaspéré parce que là, on leur reprochait pas seulement un cercueil volant, mais de continuer à produire. Et donc, il s'est retrouvé très rapidement en prison.
Un échantillon, Jean Fialy, un certain Jean Fialy, rédacteur dans Gringoire, le journal infâme que nous savons, et qui s'en prend à Marcel Bloch, un monsieur Bloch, vient d'acheter à Cannes une villa de 2 millions où il fait en ce moment de coûteuses réparations. Ce monsieur Bloch ne porte pas un nom très distinctif. Mais si nous précisons qu'il s'agit du Bloch constructeur d'avions dont les appareils avaient été interdits de vol après avoir causé d'innombrables catastrophes, ne trouvera-t-on pas abusif que le marchand de cercueils volants, nous y voilà, soit en train de jouir paisiblement de millions gagnés au prix de tant de sang? En fait, paisiblement, il était largement en prison.
Il a été arrêté assez rapidement, assigné à résidence, puis envoyé en prison. Il a reconnu Valls-les-Bains, Pellevoisin comme d'autres. Et puis finalement, ça s'est terminé, comme on le craignait, d'abord à Drancy, où il était avec ses deux fils, Claude et Serge. Et ça, je dois dire que pour Serge Dassault, c'est quelque chose dont il parle encore. Le séjour, si je puis dire, de Serge Dassault avec sa famille et son frère à Drancy. C'est
ils ont échappé, eux, à la déportation.
Oui, mais il ne s'en est jamais remis. Il était jeune, hein. Mais ça l'a beaucoup, beaucoup marqué. Alors que Marcel Bloch en parlait très peu. Et lui, Bloch, a été déporté donc à Buchenwald. Il faut imaginer une chose, et ça, c'est en interrogeant des anciens déportés qui l'ont connu, que j'ai compris ça. Que ce soit Marcel Paul, qui avait été ministre de la production industrielle après la guerre, aux côtés de Charles Tillon, ministre de l'Air. Eh bien, Marcel Paul, qui dirigeait une fédération de déportés communistes, et d'autres aussi, m'ont raconté et m'ont dit, il faut quand même imaginer que Marcel Bloch, en arrivant à Buchenwald, avait déjà 40 ans. Les gens qui ont survécu là-bas au camp, c'était des jeunes, qui étaient forts, qui étaient costauds. Lui, qu'est-ce qu'on a vu arriver? On a vu arriver un petit bonhomme avec un par-dessus, un cache-col, et qui avait froid et qui avait, tenez-vous bien, la jaunisse en arrivant au camp. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de déjà malade et de 40 ans, déjà frêle, qui arrive au camp de Buchenwald. S'il n'avait pas été pris sous la coupe des communistes, il n'aurait pas tenu 15 jours.
Qui tenait à l'intérieur du camp.
Les communistes tenaient le camp. C'était la seule structure politique importante du camp de Buchenwald. Ils ont tout de suite vu qui c'était, bien entendu. Il y avait même des anciens ouvriers de chez lui qui étaient déportés pour fait de résistance et qui ont tout de suite compris que c'était aussi leur intérêt de s'occuper de lui. Donc, ils ont mis à côté de lui, sur sa paillasse, un Breton de 20 ans, Albert, que j'ai retrouvé, j'ai mis un an à le retrouver, celui-là, qui était un costaud, qui avait été déporté pour avoir fait sauter des trains. Et il s'est occupé de lui, sous les ordres de Marcel Paul. Il s'est occupé de Marcel Bloch pour veiller sur lui. Il a été son ange gardien et l'ensemble des communistes ont fait en sorte qu'il n'arrive jamais rien, qu'il ne manque jamais de rien. Il avait un par-dessus à Buchenwald, ce qui n'était pas le cas des autres. Et tout ça en se disant que cet homme était un homme qui avait de la gratitude, en quoi ils ne se sont pas trompés, puisque par la suite, Marcel Dassault a été très généreux avec le Parti communiste, et notamment chaque année pour la fête de l'humanité et aussi pour le journal L'Humanité. Il a toujours fait en sorte de ne jamais être ingrat.
Avec beaucoup de pages de publicité hachées. Alors venons-en maintenant à Marcel Dassault. Marcel Bloch est devenu Marcel Dassault, c'est le nom de guerre d'un de ses frères, Dassault, qu'il prend à la Libération. Et voyons ces diverses relations avec l'État. Et d'abord avec l'opinion à travers le fisc. Le Canard enchaîné publie sa feuille d'impôt le 19 septembre 1979.
À propos de gros sous, sachez que l'industriel Marcel Dassault paie plus d'1 milliard de centimes d'impôts par an et qu'il touche un revenu de 2,4 milliards, toujours en centimes. C'est le Canard enchaîné qui l'a révélé en publiant sa feuille d'impôt.
Ce qui est beaucoup, c'est l'impôt que je paye. Si j'ai un revenu de 20 millions de nouveaux francs, c'est-à-dire 2 milliards de centimes, Et si je paye plus d'un milliard de centimes d'impôts, c'est parce que depuis 70 ans, j'ai beaucoup travaillé et que j'ai eu beaucoup de chance. Alors, je n'en suis pas du tout contrit que le Canard Enchaîné le fasse savoir au public, parce que c'est plutôt un point d'honneur d'être le contribuable, non pas qui paye le plus d'impôts, parce que je ne sais pas ce que payent les autres, mais qui en paye évidemment pas mal.
Bien. Marcel Dassault, lorsque l'on gagne, comme vous, que l'on déclare 2 milliards de centimes, et que dans le même temps, les syndicats discutent pour que le salaire mensuel de base d'un ouvrier en France soit au moins de 2700 francs, quel effet ça fait ?
Ben, ça me fait aucun effet, parce qu'il est bien évident que pour gagner de l'argent, il faut prendre des risques. Quand vous avez des ouvriers ou quand vous avez un petit commerçant ou un fonctionnaire qui est payé tant par mois et puis quand il a fini son travail à 6 heures du soir, ben, il s'en va rigoler avec les amis, il va jouer au billard. Tandis qu'un petit industriel, un petit commerçant comme un épicier ou même un industriel plus important comme je l'ai été, s'il fait faillite, il n'a plus rien, il est déshonoré en plus. Vous direz aussi que dans les usines que j'ai créées, il y a aujourd'hui 18 000 emplois. Eh bien, si par un coup de baguette magique, il y avait en France 100 Marcel Dassault, il n'y aurait plus de chômage. Alors, ça vaut bien un petit revenu.
L'homme est là, vraiment. Et c'est le même, d'ailleurs, qui, plus tard, lorsqu'il ouvrira les travaux de l'Assemblée nationale comme doyen d'âge, expliquera qu'il faut absolument, avant que ce soit le cas, créer un impôt sur la fortune.
C'est difficile de lui répondre à Marcel Dassault parce que ce qu'il met toujours en avant avec beaucoup de gentillesse, c'est le bon sens. Et on ne peut pas lutter contre le bon sens. Quand il est exprimé par un très vieux monsieur, on ne peut pas polémiquer. Je veux dire qu'aujourd'hui, depuis 20 ou 30 ans, c'est le règne des Bernard Tapie, des Le Pen, tout ça. Je parle dans les micros, hein, sur les ondes. C'est eux qui font la loi sur ce plan-là. Face au bon sens d'un Marcel Dassault, ça ne tiendrait pas. Parce que c'est désarçonnant. Il n'y a rien à répondre. On ne peut pas discuter avec lui.
Et c'est un vif contraste avec son fils, d'ailleurs, quand son fils vient expliquer qu'il faut approuver l'organisation chinoise du travail. Et quand il se désole de l'existence des grèves et des syndicats, ses propos n'auraient pas été tenus par son père.
Encore une fois, Serge Dassault ne peut pas se permettre de parler comme son père parce que ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et on le voit en politique. Parce qu'il y a quand même une carrière politique de Marcel Dassault.
Alors rappelez-nous pourquoi et comment souhaité, parce que ça peut paraître étonnant aujourd'hui. Il n'y aurait plus probablement de très grands capitaines d'entreprise qui se diraient qu'il est utile ou précieux d'être parlementaire ou désirable. Il l'a désiré très fort. Et comment ?
Il l'a désiré très fort pour des raisons historiques. Il faut comprendre les choses. Au retour de Buchenwald, Marcel Bloch ne veut plus avoir les ennuis qu'il a eus avant. Donc pendant 5 ans, de 45 à 50, il va s'appeler Marcel Bloch Dassault. Et ce n'est pas un hasard, il est entre deux. Dans cet entre deux, il mûrit sa nouvelle vie. À partir de 1950, sa nouvelle vie commence. Et cette nouvelle vie, c'est une vie qui, comme toujours, tire les leçons de ses échecs, de ses déboires et de ses infortunes qu'il y en a eu d'avant-guerre et de la guerre. Et donc à partir de 1950, première chose, il change totalement de nom, il devient Marcel Dassault, en prenant donc le pseudonyme de guerre de Darius, son frère qui était général et qui était un homme de char, et donc de char d'assaut, ça vient de là. Donc il s'appelle Dassault. Deuxième chose, ça peut paraître anodin, mais c'est très important, il se convertit au catholicisme avec sa femme Madeleine. Pourquoi ? Et quand on lui pose la question, là aussi c'est déconcertant, il dit parce que j'ai tellement souffert d'avoir été juif pendant l'occupation et même avant la guerre, d'avoir été insulté comme juif, que je ne veux plus l'être comme ça. Si jamais ça recommence, eh bien, ça ne m'arrivera plus. Ce qui est, il n'y a rien à répondre à cela.
C'est à la fois touchant et naïf.
Donc, il est baptisé. Il faut dire aussi qu'il y est fortement encouragé par celui qui va devenir son éminence grise, son principal conseiller de l'ombre, notamment en politique, beaucoup plus que dans l'industrie, et qui est Bénouville, qui est catholique, qui fait venir le père Riquet pour convertir Marcel Dassault. Et donc à partir de là, il se dit, pour être protégé en tant qu'industriel dans mes affaires avec l'État, rien de mieux que d'être un élu. C'est ça qui le fait arriver. C'est pas le goût de la politique.
C'est pas le goût non plus de peser par le truchement de sa présence au Parlement.
Pas
il a
tout.
D'autres, il a d'autres, non. d'autres moyens. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont ses opinions politiques qu'il affiche. Il est d'abord au RPF quand il est élu dans les Alpes-Maritimes, et puis ensuite, en gros, voilà ce qu'il dit de ce qu'il pense. Il est interviewé à nouveau par Jacques Chancel dans Radioscopie. On est le 6 janvier 1971. Il a donc déjà près de 80 ans.
Marcel Dassault, qu'êtes-vous le plus ? Radical, radical-socialiste ou gaulliste ?
Ben, je suis plus radical-socialiste, c'est évident. J'ai été pour De Gaulle par amour du 18 juin. Comme la majorité des Français, du reste, je ne me différencie pas. Mais le radical-socialisme, c'était quand même le juste milieu. Et je crois que pour vivre paisible, on a besoin d'un centre, d'un juste milieu. Maintenant, il est possible que l'UDR, au fond, ça soit le radical-socialisme de la Ve République. C'est pas une fois De Gaulle disparu, eh bien, qu'est-ce qu'il y a à l'UDR ? Des braves gens qui veulent maintenir la pérennité de la France, son standing dans le monde, et assurer dans la plus large mesure le bien-être des plus défavorisés. Au fond, parmi les différents partis, les socialistes défendent les intérêts des fonctionnaires. Les communistes ont trouvé une large clientèle parmi les ouvriers. Les indépendants défendent le capital, c'est-à-dire la grande bourgeoisie, la grande industrie. Mais il y a tous les autres. Et tous les autres, c'était autrefois les radicaux socialistes, c'est aujourd'hui l'UDR, car l'UDR a exactement le même but, maintenir la pérennité de la France et rendre les citoyens le plus heureux possible, sans pour cela défavoriser les autres.
Marcel Dassault, le capitalisme peut-il être considéré comme un parti politique ?
Non, certainement pas. Parce que dans le capitalisme, il y avait autrefois deux choses différentes. D'une part, le capitaliste qu'on a appelé de droit divin, d'autre part, le capitaliste de ceux qui ont acquis leur fortune. Or, ceux qui ont acquis leur fortune sont toujours fidèles à leurs origines et le fait d'avoir de l'argent ne fait pas changer leur opinion politique. Par ailleurs, le capitaliste de droit divin n'existe plus, parce que petit à petit, les sociétés sont devenues de plus en plus grandes, elles se sont fondues entre elles sont devenues des trusts, si bien que le patron d'une grande société n'est plus un capitaliste, mais un manager, et que ce manager est un employé comme les autres. Il a ses opinions politiques qui ne sont pas forcément celles du capitalisme de droit divin autrefois, qui a complètement disparu.
Voilà, Pierre Assouline, l'idée que Marcel Dassault, dans son grand âge déjà, se fait de l'éventail des sensibilités politiques en France et des rapports entre l'argent et le pouvoir, le capitalisme. Le capitalisme de droit divin,
oui.
C'est le cas de son fils. C'est le cas de son fils.
On n'est pas surpris et vous noterez que quand il dit manager, on entend ménagère, ce qui lui ressemble. Tout à fait. Cela étant, quand même, il a été élu député des Alpes-Maritimes dans les années 50, sénateur de l'Oise à la fin des années 50 et au début des années 60.
Puis à nouveau député.
Et à nouveau député. Il a mis en place un système, il a même été doyen de la Chambre, il a mis en place un système qui avait pour but essentiellement non seulement d'être protégé par son statut de parlementaire, mais d'autre part d'essayer quand même dans les commissions spécialisées de la défense ou des finances, d'influer de l'intérieur du système pour que ces affaires perdurent comme il le souhaitait.
Donc double finalité de sa présence au Parlement qui peut aujourd'hui paraître un peu surprenante, le goût qu'il en a eu si fort et que son fils en a toujours.
Moi je ne suis pas surpris parce que dans son esprit, dans sa logique, c'est parfaitement concevable. Alors évidemment si on lui dit que ses casquettes sont légèrement contradictoires et qu'il y a abus, bon, c'était pour lui des choses qui lui passaient un petit peu au-dessus de la tête. Hein. Mais aujourd'hui, c'est bien ce qu'on reproche aussi, entre autres choses, à Serge Dassault. Mais évidemment, ce qu'on reproche à Serge Dassault, c'est un système mis en place par son père qui a été accepté avec beaucoup d'indulgence à l'époque pour son père, parce que quand même, du temps de Jacques Chirac, Premier ministre, il faut bien imaginer que Jacques Chirac avait toutes les indulgences pour Dassault. Chirac a...
Il avait des liens personnels, familiaux.
Il était, quand il était très jeune, il était sur les genoux de Dassault, par sa famille.
Ça, c'est encore une autre forme d'influence sur la vie publique. Mais restons un instant sur les procédés de Marcel Dassault, qui sont en effet... à l'avance, ce que l'on reproche, peut-être dans un climat différent, à son fils Serge, c'est l'article L106 du Code électoral qui sanctionne ceux, je cite, « qui auraient utilisé des dons ou des libéralités en argent ou en nature en vue d'influencer le vote des électeurs ». Alors, dans le cas de Marcel Dassault, c'est indubitable.
C'est indubitable. Et c'est une des rares choses que j'ai modifiées dans ma biographie avant qu'elle paraisse. Je l'avais fait lire par un avocat.
C'est toujours prudent.
Et qui m'avait dit juste une chose. Quand tu dis que Marcel Dassault a donné de l'argent à un certain nombre de gens dans sa circonscription pour se faire élire, si tu ne donnes pas les numéros de chèque, c'est gênant. Alors j'avais retrouvé certains numéros de chèque que j'avais mis.
Dites-les vite pour nous protéger.
Mais pour le reste, non, mais pour le reste, Dassault, quand on le lui disait, il disait, écoutez, j'ai payé l'Angelus électrique à la commune et j'ai payé une piscine Marcel Dassault. Pourquoi voulez-vous que les gens se plaignent et qu'ils cessent de me réélire? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? C'était du clientélisme, bien entendu.
À la romaine.
À la romaine, il le reconnaissait et il était réélu à chaque fois.
Mais alors, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, la justice s'en prenne pour des comportements apparemment assez proches à son fils Serge, lui-même élu de l'Oise?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que les Dassault sont moins protégés par le pouvoir qu'ils ne l'étaient autrefois, notamment du temps de Chirac. Et la deuxième raison, c'est que l'atmosphère a changé et que la société civile est devenue, je ne dirais pas plus morale, mais qu'elle a d'autres exigences sur le plan éthique, et que les médias notamment et l'Internet permettent de relayer ces exigences de manière beaucoup plus radicale.
Plus peut-être les médias que les électeurs eux-mêmes.
Oui.
J'observe que, je le citais tout à l'heure, la réélection dimanche dernier du dauphin de Serge Dassault à la mairie de Corbeil-Essonne avec près de 57% des voix.
Eh bien écoutez, dans le même esprit des concordances des temps, la réélection de Patrick Balkany à Levallois, qui pour moi procède du même ordre. C'est-à-dire que vous avez un désaveu total d'une grande partie de l'opinion publique et des médias vis-à-vis de ces méthodes. Et la justice est derrière lui avec un certain nombre d'affaires. Il n'en demeure pas moins qu'il est parfaitement et triomphalement réélu.
Sur l'utilisation de l'argent privé, ce témoignage de Pierre-Marie Gallois, le général Gallois, qui a été un des concepteurs de la doctrine nucléaire française dans les années 60, qui a été un collaborateur de Marcel Dassault, Il en parle dans « À voix nue » sur France Culture, le 23 novembre 1995, interrogé par Paul-Marie Couteau.
Il était très sollicité, évidemment, avec surtout sa fortune. Les partis politiques frappaient souvent à sa porte. Je me rappelle d'un parlementaire me disant « J'ai une campagne électorale difficile, est-ce que vous croyez que votre patron pourrait m'aider ?» Alors, je lui en parle. Il me dit « Est-ce que votre ami est capable d'être un jour ministre ?» Oh, je dis probablement oui. Bon, alors, si, envoyez-le-moi. Alors, je l'envoie. Il entre dans le bureau de M. Dassault. Je me retire par discrétion. Un quart d'heure après, il s'en va. M. Dassault m'appelle et sur le pas de la porte, alors je suis encore sur le pas de la porte, m'interpelle. Dites donc, votre ami, c'est un imbécile, il ne m'a rien demandé. Il était tout à fait surpris que pour la première fois on soit venu le rencontrer et qu'on ne l'ait pas sollicité pour lui demander de l'argent. Sans doute ce garçon, intimidé par le personnage, avait renoncé.
Il est devenu ministre ?
Il est devenu ministre.
Bien, témoignage, Pierre Assouline.
Oui, et qui est cet homme devenu ministre ?
Je ne sais pas, on va le savoir sûrement par des courriels d'auditeurs.
Oui, sûrement, oui. Mais... Non, mais ça, c'est lui. Hein. Cela dit, le général Gallois est comme d'autres qui ont travaillé pour Marcel Dassault. Parfois, on leur a reproché, alors, je ne sais pas si c'est son cas à lui, mais à d'autres, oui, d'avoir fait trop rapidement l'aller-retour entre l'État et le privé. Le privé et l'État.
Ah, c'est le problème du pantouflage.
Et
il y a d'ailleurs des commissions.
De ne pas avoir respecté un certain temps de latence entre les deux.
C'est particulièrement préoccupant souvent dans le domaine de la défense nationale, mais pas seulement. Les généraux qui ensuite...
Et ça, le système Dassault l'a beaucoup pratiqué. N'attendez pas 5 ans entre les deux pour parfois ça se faisait quelques mois après.
Normalement, donc, il y a une commission spécifique chargée d'examiner la légitimité de ce genre de saut, de pantouflage. Elle s'exprime, mais apparemment elle n'est pas toujours respectée, en tout cas pas à l'époque. Peut-être ses avis le seraient-ils davantage aujourd'hui.
Disons qu'il y a une exigence déontologique aujourd'hui. Il y a en permanence cette nécessité de rendre des comptes devant l'opinion. Et encore une fois, je ne crois pas abuser en disant que le relais Internet des médias change les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette exigence, qui a toujours existé, va beaucoup plus vite. Et elle est beaucoup plus ténue, beaucoup plus forte. Elle met les gens au pied du mur dans la seconde. Et à cette exigence et à cette rapidité, les médias traditionnels sont obligés d'emboîter le pas pour ne pas être en retard par rapport à tout cela. Donc je crois que c'est cela aussi qui change.
Quoi qu'il en soit, il est toujours très difficile de mesurer ce qu'a pu être l'influence de tel argent passant par tel canal, de savoir si les décisions publiques sont marquées essentiellement de la sorte. C'est toute la difficulté d'étudier en historien ou en politologue le rôle des groupes de pression. Et dans le cadre Dassault, c'est particulièrement frappant, à l'époque de Marcel et au temps de Serge.
Vous savez, il y a eu beaucoup d'enquêtes sur Dassault.
Y compris une commission d'enquête qui a finalement s'est perdue dans les sables.
Oui, oui. Donc, et pas seulement pour des raisons politiques. Il y a eu aussi des enquêtes, il y a eu des livres. La presse, un peu moins. Et là, c'est pour une raison très pratique, qui ne concerne pas que Dassault, mais enfin, entre autres, Dassault est un gros annonceur dans la presse traditionnelle. Et vous savez, certains ne se gênent pas pour faire savoir à des directeurs de journaux que s'ils sont trop curieux, trop insistants, eh bien, les annonces baisseront.
Le même Gallois raconte dans la même émission qu'il s'était inquiété de la perspective de voir Marcel Dassault interrogé, bousculé par l'assez brillant journaliste de l'Humanité, René Andrieux. Dassault l'avait rassuré, non, tout se passera très bien. Quelques jours auparavant, on avait pu voir une page entière de publicité Dassault dans les colonnes de l'Humanité. Les choses sont rarement aussi simples, naturellement.
Non, mais en même temps, aujourd'hui, ce n'est plus possible, en tout cas pas avec son successeur et héritier. Ce n'est pas possible, on le voit bien. C'est-à-dire qu'il ne bénéficie pas de ce capital de sympathie du tout, qui permettait à Marcel Dassault parfois de passer, de surfer au-dessus de la vague.
Et il est difficile de savoir d'autre part si le fait que Serge Dassault soit propriétaire du Figaro sert ou non sa politique industrielle, le protège ou non finalement contre d'éventuelles enquêtes judiciaires. Oui. Il n'y avait pas l'équivalent du temps de Marcel Dassault. Il aurait bien aimé avoir son journal, pour l'Aurore.
Il a financé des journaux, il a été banquier de quelques grands journaux, mais qui ne l'appartenaient pas. Mais pour les journaux qu'il a lancés, que ce soit Semaine de France ou Jour de France, qui est le plus connu, évidemment, ça ne pouvait pas aller très loin sur le plan politique. C'était des gazettes qui aujourd'hui sont d'un kitsch absolu. Jour de France, quand on trouve ça chez un bouquiniste sur les quais de la Seine, dans une brocante.
Vendu par les dentistes qu'il avait longtemps eu sur leur table
sourit.
Salle d'attente.
Mais c'est, il voulait raconter la France des Trente Glorieuses et qu'elle perdure sous une sorte de nuage rose ou bleu azur. Il disait qu'il faut parler uniquement des événements quand ce sont des événements positifs, heureux. C'était le journal de l'actualité heureuse. Et effectivement, c'était vraiment ça.
Il avait d'abord échoué, vous le dites, en ayant créé Semaine de France. En revanche, Jour de France, c'est un vrai succès. Et il s'en explique, toujours au micro de Jacques Chancel, dans Radioscopie, en janvier 1971.
Vous avez créé un journal, Jour de France. Est-ce que vous avez l'âme d'un journaliste?
Oui, j'aime bien Jour de France. Je crois qu'il est pas mal et qu'il apporte des satisfactions aux gens qui les lisent, puisqu'ils le lisent.
Vous avez des rivaux dans la presse? Est-ce que, par exemple, vous regardez Match d'à peu près?
Oui, naturellement. Mais il est bien évident que pour vous, regarde Jour de France. Et alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que quand nous avons commencé avec Bénouville à faire un journal, nous voulions faire un journal politique, comme je l'ai expliqué. Et puis nous nous sommes aperçus que la politique, au fond, n'intéresse personne, et que pour qu'un journal politique ait une influence, il faut qu'il se vende beaucoup. Et pour qu'il se vende beaucoup, il ne faut pas parler de politique. Ce qui nous a admis à faire un journal de distraction. La mode, les romans, les dessins intéressent les femmes et les hommes aussi. Mais j'admire énormément Provost, n'est-ce pas? C'est certainement le premier journaliste de France. Il a eu des réalisations comme Paris Soir. Et puis comme Match et comme Marie-Claire, qui ont plus ou moins été copiés, déformés, c'est quand même lui l'inventeur. C'est vraiment un grand patron tout à fait remarquable.
De toute manière, un journal, c'est un support extraordinaire pour un homme d'affaires tel que Marcel Dassault. D'ailleurs, tous les hommes d'affaires ont leur journal. C'est une force.
Oui, mais je dois dire que Jour de France, on y parle assez peu de nous.
Oui, mais lorsque vous voulez parler dans Jour de France, vous le pouvez.
Quand on veut y parler, on peut, oui, ça c'est sûr. Et alors à ce moment-là, on a moins d'auditeurs qu'à la radio, mais on a tout de même un peu plus de 4 millions. Je vous dis, Jour de France m'intéresse, j'aime bien les choses jolies, j'aime bien les choses qui font rêver, c'est pour ça qu'on met de la mode, parce que j'estime que la mode des grandes maisons ou des grands couturiers du prêt-à-porter intéresse les personnes qui peuvent se les acheter, ces robes, mais elles font rêver aussi les petites ouvrières. Il y a des petites couturières qui les copient. Et je crois qu'il y a toujours intérêt à montrer ce qui est beau et jamais ce qui est moins bien.
Vous aimez le peuple ?
Ah ben forcément, j'en fais partie. Il n'y a pas de raison que je ne l'aime pas, au contraire.
Mais vous en faites partie quand même à un niveau assez élevé.
Ben, ça dépend des époques.
Je ne suis pas sûr que Jean Prouveau, que Marcel Dassault admirait tant, se serait pour sa part présenté comme un homme du peuple. Enfin, l'essentiel, c'est qu'il l'admirait beaucoup.
L'admiration qui sourd à travers les propos de Marcel Dassault à Jacques Chancel n'est pas feinte lorsqu'elle s'exprime pour Jean Prouveau. Il a une vraie admiration parce que Prouveau a réussi ce que lui a en quelque sorte raté. Il a réussi à être un grand industriel dans son propre domaine.
Fortune extérieure à la presse qui apporte de l'argent.
Et qui ensuite est devenu un très grand industriel de la presse.
C'était un lainier.
C'est un lainier. Mais Jean Prouveau a révolutionné le monde de la presse. La présence de Dassault dans la presse est insignifiante, inexistante. Il aurait voulu être quelqu'un comme Prouveau. Simplement, Prouveau avait une intelligence politique. Enfin, c'est un autre homme, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc ça, il aurait voulu.
Mais alors, est-ce que cette presse le sert dans ses relations? Puisque c'est au centre de notre interrogation ce matin, Pierre Assouline, est-ce que Marcel Dassault est servi par cette presse? Et Serge Dassault, son fils, l'est-il vraiment par le Figaro dans les efforts qu'il peut déployer pour peser sur les décisions publiques?
Vous savez, c'est complexe, parce qu'à chaque fois qu'au cours du XXe siècle, un grand industriel a mis de l'argent dans des journaux, et on l'a vu très récemment encore avec le trio BNP au Monde, eh bien, à chaque fois, la réaction de l'opinion publique a été de dire c'est pour instrumentaliser le journal à des fins personnelles, électorales ou en tout cas politiques. Et à chaque fois, les gens se sont récriés en disant mais pas du tout, pas du tout. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Pierre Berger, au Monde, essayer d'influer sur la ligne en disant « mais c'est la moindre des choses, enfin, pourquoi je ne m'exprimerai pas dans ce journal ?» On a vu très vite Serge Dassault, contrairement à ce qu'il avait dit, essayer d'influer sur la ligne du Figaro en publiant lui-même des éditoriaux ou des articles.
Et en parlant de Corbeil-Essonne.
Et en parlant évidemment de sa propre circonscription. Ça a fait hurler même au Figaro.
Donc il y a des effets de contradiction, effets de résistance majeurs.
Oui, et en même temps, à chaque fois, ils essayent parce qu'il ne voit pas où est le problème. Pourquoi ça ne serait pas possible? On n'investit pas dans la presse pour gagner de l'argent. Ce n'est pas un lieu où on fait du profit, j'entends aujourd'hui.
Soit, mais est-ce qu'on en tire une influence quand on est homme d'affaires?
Je pense que dans l'esprit de Serge Dassault, une fois qu'il a compris qu'il ne pourrait pas faire chaque jour ou chaque semaine des éditoriaux politiques pour raconter sa propre vision du monde et de la France, il s'est rabattu sur le second volet, à mon avis, de ce rachat du Figaro, dans son objectif, à savoir le protéger. Peut-être pas lui permettre de parler, mais en tout cas le protéger. C'est-à-dire, d'une part, en tant qu'industriel, donner des versions des relations industrielles du groupe Dassault avec les pays étrangers, notamment pour le Rafale, des relations qui conviennent à ses propres opinions.
Apparemment,
ne sont pas trop critiques.
C'est la guerre marché pour ce qui est de la vente des Rafales.
On
ne
peut pas inventer qu'un pays va acheter des Rafales s'il les invente.
À cause du Figaro.
Oui. Mais en même temps, disons que ça donne une vision moins critique du marché et de ses échecs. Et puis d'autre part, le protéger aussi par rapport aux affaires. On le voit encore aujourd'hui, le Figaro est très gêné pour parler des problèmes de Serge Dassault par rapport à son immunité vis-à-vis du Sénat.
Affaires judiciaires.
Si on s'intéresse aux affaires judiciaires de Dassault, il faut tout lire, sauf le Figaro. Ça va de soi.
Alors nous allons, pour finir notre conversation, Pierre Assouline, donner une dernière fois la parole à Marcel Dassault, donner la parole à Marcel Dassault parlementaire, puisqu'il s'est trouvé le doyen d'âge de l'Assemblée nationale et que, de ce fait, il lui est revenu de prononcer un discours inaugural, le discours inaugural lors de la rentrée du 2 juillet 1981, après les élections qui ont vu la victoire de la gauche. Et naturellement, les parlementaires socialistes nouvellement élus regardaient Marcel Dassault comme un personnage extraordinaire, avec un mélange de fascination, d'irritation et parfois de gaieté.
Mes chers collègues, le chômage étant toujours à l'ordre du jour, je vais vous parler du chômage. Je suggère différentes solutions pour l'amoindrir, pour éviter la sortie de fonds et l'entrée de devises étrangères. Par exemple, les motards qui entourent le président de la République ont des motos qui sont soit japonaises, Honda, soit allemandes, BMW. Il y a de même une consolation, c'est que les BMW étant allemandes, on voit que l'Europe peut constituer une concurrence aux Japonais. Si l'on veut construire des motocyclettes, nous n'aurons plus besoin de les acheter et nous pourrons même les exporter, étant donné que la main-d'œuvre allemande est plus chère que la nôtre.
Alors voilà, Pierre Assouline, oui, non, mais le dernier. C'est dans un de ses discours aussi qu'il a réclamé un impôt sur la fortune.
Oui, non, mais ça reste du folklore. Je crois me souvenir que les parlementaires rigolaient bien à chaque fois que le doyen Dassault prenait la parole pour son discours. Mais je crois qu'un tel discours aujourd'hui serait impossible.
Pourquoi ?
Mais parce que l'époque s'est crispée. C'est beaucoup plus difficile. D'abord parce que les relations se sont tendues, la situation est beaucoup plus grave. On ne peut pas parler du chômage de manière aussi légère. Et d'autre part, parce qu'il n'existe plus aujourd'hui de personnalité aussi unique et intouchable que Marcel Dassault.
À la fin de sa vie, intouchable.
Oui, dans l'hémicycle. Il n'y a pas, évidemment, sûrement pas son fils, qui, je pense qu'à la Chambre, il a plutôt intérêt à raser les murs très souvent, parce que les journalistes sont toujours là à lui demander des comptes. Mais je n'en vois même pas d'autres équivalents qui pourraient se permettre de parler comme ça et de susciter la sympathie de l'extrême gauche communiste à la droite. Ça n'existe plus.
Alors, ces temps sont révolus et ce qui frapperait davantage, c'est la discordance des temps entre le père et le fils, entre Marcel Dassault et Serge Dassault. Acceptons cette conclusion. Pierre Assouline, en vous remerciant d'être venu à ce micro, je rappelle le titre de la biographie que vous aviez, voici une trentaine d'années consacrée à Dassault, Monsieur Dassault, qui était paru à l'époque chez Ballant. On le trouve bien sûr d'occasion. Et j'ai la bonne nouvelle, c'est que ce livre a été pour l'essentiel republié par l'excellente éditrice Emilia Aru de Porta Parole, qui siège en Italie en 2010. En 2010, par conséquent, ce livre est disponible et accessible à tous. Et puis, je signale que en 2013, vous avez publié un livre qui s'intitule « Du côté de chez Drouan, 110 ans de vie littéraire chez les Goncourt », à partir d'une émission qui avait été produite par vous sur nos antennes pendant l'été 2013. Vous pourrez, vous le savez, trouver une bibliographie complète sur notre site, ainsi que les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission pour la conserver dans l'éternité des temps et la repasser à vos enfants, petits-enfants, de génération en génération. Samedi prochain, nous parlerons des filles et des garçons à l'école depuis Jules Ferry, puisque vous savez que il y a eu un certain nombre d'émotions qui se sont manifestées autour de l'éventualité qu'on ne les distingue plus, filles et garçons, dans nos salles de classe. Et je recevrai pour en parler Rebecca Rogers. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur et Jeanne Guéroux, réalisée par Patrick Molinier, comme chaque semaine, avec Pierre Mine à la prise de son et Véronique Jolivet pour les Archivinas. Et dans quelques instants, je passe le témoin Dominique Rousset et à ses invités pour l'économie en question.